tard que le piano. J'ai fait du piano pour faire plaisir à mon papa.
Alors, votre papa, donc je le rappelle, vous êtes né aux États-Unis. Votre papa était pianiste et organiste, je
Oui,
crois.
tout à fait, oui.
Donc lui, il vous a plus orienté vers la musique classique, voire la musique sacrée.
Oui, tout à fait, vers la musique sacrée. Parfois même, j'allais vous rendre compte, ce privilège que j'ai eu quand il jouait Bach, parfois j'allais à l'église, j'allais dans l'orgue, parce que c'est un immense instrument, et parfois j'allais dedans. Donc j'avais les tuyaux tout autour de moi, et parfois je me rappelle, ça c'est incroyable, moi j'adore Bach. Parfois mon papa jouait Bach et j'étais dans l'orgue pour apprécier.
Alors c'est drôle parce que Steve Waring, vous êtes plus connu pour, bien sûr, des chansons pour enfants, mais le style qu'on appellerait folk ou blues. Mais vous avez commencé par la musique classique avec votre professeur de piano. Vous n'en gardez pas un très bon souvenir, je crois.
Ah, ben oui, le prof de piano, c'était pas mon papa, c'était une dame. Mais c'était pas très drôle, je sais pas, ça m'a pas emballé.
C'est pour ça, mais on en reparlera. Votre conception d'enseigner la musique n'est pas la même que ce que vous avez reçu dans votre enfance.
Oui, enfin, en tous les cas, dans cet esprit conservatoire qui était chez cette dame, non, non, ça m'a débranché.
Alors, Steve Waring, j'aimerais qu'on retourne aux États-Unis. Donc, vous êtes né en 1943 à Abington, en Pennsylvanie. Donc, là, on est dans le sud de New York.
Oui, exact.
Mais vous avez grandi dans les années 50 dans une autre ville, Cambridge?
Oui, voilà, c'est à partir de Cambridge, même un peu après, parce que mon papa, donc, il changeait souvent de lieu de travail, et donc on a pas mal déménagé sur la côte est, au nord de la côte est des États-Unis. J'ai vécu dans plusieurs États, le Connecticut, le New York, pas la ville, mais l'État de New York. Donc, Connecticut, New York, Massachusetts, ça c'est Boston et Cambridge où j'étais, mais mon frère est né dans le Maine. Donc avant de s'installer dans le Cambridge, Massachusetts, on était un peu dans plusieurs États. Et bien, je suis né dans la Pennsylvanie, comme vous venez de dire.
Et vous étiez quel type d'enfant? Allez, vers l'âge de 8-10 ans, vous étiez quoi? Un rêveur, un hyperactif, un sportif, un musicien? Vous étiez quoi ou comment?
J'étais sportif. J'aimais bien aller me promener là-haut dans la forêt. J'ai pas fait de courses, mais j'étais souvent à sortir de la maison. Et puis j'étais acrobate un peu. Oui, j'aimais bien grimper les arbres.
Et la musique était déjà importante dans votre vie quand vous étiez enfant.
Oui, la musique, mais c'était à l'écoute pour l'instant. J'ai d'ailleurs cette chanson que vous avez évoquée, la chanson des grenouilles, je l'ai découverte en écoutant, parce que c'est une chanson traditionnelle du sud des États-Unis. Ça s'appelle Frog Song, donc chanson des grenouilles, mais en fait c'est une histoire. Mm-hmm. C'est une histoire avec un accompagnement à la guitare. Et donc j'ai découvert ça quand j'avais 7 ou 8 ans sur un disque.
Et vous avez aimé tout de suite cette chanson, parce
ah,
que
oui.
C'est vrai que c'est une des plus célèbres de votre répertoire.
C'est fascinant parce qu'il y avait des bruits. Uh-huh. Et un enfant comme moi, en tous les cas, le bruit, c'est passionnant.
Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quoi. Quelques-unes disent... D'autres qui font. Les plus grosses. Et même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font... Bientôt, ce petit garçon, il ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout, elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait par exemple...
Out, 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 out. Out, 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 out. Out, 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 out.
Et une autre répond en disant...
Alors, Steve Waring, on va avancer un petit peu dans le temps. Vous avez été jeune, vers 18-20 ans, au moment des années 60. On se souvient de cette ébullition du mouvement beatnik, du mouvement hippie, de la musique vraiment très importante dans ces années 60. Vous, quelles étaient vos sources d'admiration et d'inspiration à cette époque ?
Joan Baez.
Sans hésiter,
oui.
C'est elle.
C'est une femme extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez, mais
ah oui.
Vous ne le prononcez pas pareil, Baez.
On dit Joan Baez, oui.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Joan Baez, ben c'est émouvant pour moi parce qu'il y a seulement 2 ans, à Vienne, j'ai pu lui parler pendant 5 minutes. C'était mon idole de... Et c'est grâce à Joan Baez, parce que tout le monde sait qu'elle chante merveilleusement bien, mais en plus, les gens n'en parlent jamais, mais elle, c'est une guitariste vraiment extraordinaire, très bonne guitariste. Et c'est en entendant un concert un jour à Cambridge, Massachusetts, que j'adorais sa voix, mais j'adorais sa façon de jouer de la guitare. Et je suis allé acheter ma première guitare juste après ce concert de Joan Baez.
Et c'est elle qui vous a donné envie de devenir chanteur, Steve Waring, ou c'est venu bien plus tard ?
Non, oui, on peut le dire comme ça. Moi, je ne savais pas. Enfin, je ne savais pas que j'allais faire ce métier. Mais j'avais envie de chanter ces chansons. J'ai appris, à l'époque, c'était des petits vinyles. Hein,
des 45 tours,
des 45 tours aussi, oui. Alors que j'ai passé pour apprendre des chansons de Joan Baez, des chansons traditionnelles.
Vous avez toujours été admiratif, attiré par ces chansons traditionnelles américaines.
Oui. Et oui, oui.
Qu'est-ce que vous aimiez ? Qu'est-ce que vous aimez dans ces chansons ?
Ah, ben, c'est des chansons qui m'ont beaucoup touché. D'abord, les chansons, peut-être, Joan Baez chantait des chansons qui étaient plutôt d'Europe, l'Angleterre, des belles chansons traditionnelles dans leur version américaine que j'ai découvert. Et puis, très vite, c'était le blues qui m'a passionné.
Qu'est-ce qu'il a, ce blues ?
Ben, le blues, c'est émouvant, c'est une histoire, c'est pas que des histoires de tristes. Ou quand c'est des histoires tristes, c'est chanté d'une façon gaie. Donc j'ai dû sentir ça, moi je me le suis... J'étais pas très conscient à l'époque, je pourrais peut-être pas en parler, mais je pense que c'est cette légèreté et cette profondeur pour parler des choses très profondes ou même très tristes, mais de façon rythmée et parfois joyeuse.
C'est intéressant que vous disiez ça, Steve Waring, parce qu'on a l'impression que vos propres chansons sont comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez aborder des sujets parfois tristes ou douloureux, mais toujours avec une certaine forme de légèreté et d'humour.
Ah ben, tant mieux si vous sentez ça, ouais, c'était une butte. Moi, c'est passionnant parce que c'est parfois des gens imaginent ma chanson, ma chanson, c'est pas la mienne, mais enfin bon, c'est moi qui l'ai adaptée en français, Le Matou revient. Mm-hmm. Ben, c'est une histoire terrible. Mm-hmm. C'est une histoire d'un chat qu'on essaie d'assassiner de toutes sortes de façons. Il revient toujours, mais donc il y a une légèreté dans cette agression. Enfin bon.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il l'a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là !» Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant.
Steve Waring, on a à côté de nous vos guitares et puis votre banjo. Vous pouvez prendre votre guitare, s'il vous plaît.
Oui.
Et puis, on vous présente souvent comme un très bon guitariste, mais un peu le spécialiste du picking.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est le picking ?
C'est le pouce, voyez-vous le pouce ? Ça fait un rythme. Et les doigts, ça peut faire une mélodie. Donc il y a les deux choses, il y a le rythme avec le pouce. Il fait une petite mélodie, mais c'est surtout rythmique, le pouce, et puis les doigts font la mélodie. Donc c'est
ça, le picking. C'est ça que vous avez, comment dire, introduit en France et fait vraiment connaître en France quand vous êtes arrivé dans les années 60.
Oui, je suis arrivé. On découvrait, entre autres, le picking, plein d'autres choses. On découvrait Joan Baez, d'ailleurs, aussi, la chanteuse, qui faisait du picking aussi.
Puis il y avait Pete Seeger aussi.
Et Pete Seeger, c'est surtout le banjo. Ça, c'est... Il est mon deuxième très grand inspirateur. Donc, il y avait Joan Baez, mais aussi Pete Seeger. Je suis ravi que vous parliez de lui. Il vient de mourir, justement, l'année passée. Ouais.
Alors... Vous posez votre guitare, s'il vous plaît, oui. Steve Waring. Et puis, à côté, vous avez cet autre instrument dont vous venez de parler, là, le banjo. Vous voulez bien le prendre
et
nous faire écouter un peu cette sonorité si particulière du banjo?
Oui, bien sûr. C'est un instrument qu'on peut appeler afro-américain. Voilà, je joue dans une façon très ancienne de cet instrument qui est donc une sorte de tambour avec des cordes.
Et pourquoi vous dites qu'il est afro-américain ?
Il est afro-américain parce qu'on pense que le banjo est venu avec les premiers esclaves aux États-Unis. Donc il y avait des esclaves qui ont pu apporter un instrument. Et après, il est devenu, il a pris cette forme-là. Au début, c'était peut-être une gourde avec une peau d'animal dessus, avec trois cordes.
C'est ce qu'on appelle la kora, peut-être, en Afrique.
Le kora, c'est... Oui, mais...
L'instrument.
Le kora, c'est plus élaboré. Il y a souvent une douzaine de cordes. Non, c'est le ngouni, par exemple. Au Mali, on l'appelle ngouni. C'est des petits instruments à deux ou trois cordes, avec une peau qui sonne. C'est pas comme la guitare où c'est le bois qui résonne, qui amplifie la résonance de la corde. Là, c'est une peau. Donc, c'est arrivé aux États-Unis avec les premiers esclaves, donc il y a deux siècles. Et puis, ce qui est passionnant, c'est qu'après, c'est devenu un instrument des Blancs aussi.
Et alors vous, qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument-là ? Parce que vous en jouez souvent.
Non, mais pour simplifier, ouais. La guitare pleure et le banjo rit. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Parfois, ça se dit, c'est peut-être trop simple, mais enfin bon, voilà. C'est un instrument qui a un timbre qui est joyeux, ouais. Quoi.
C'est intéressant parce que vous dites que ce sont les anciens esclaves qui l'ont apporté. Et la vie des esclaves n'était pas riante, n'était pas drôle du tout.
Ouais.
Et c'est eux qui ont apporté cet instrument,
oui.
Qui rit.
C'est incroyable. Hein,
ouais. Alors Steve Waring, vous êtes arrivé en France en 1965.
Voilà.
C'est ça ? Qu'est-ce qui vous a fait quitter votre États-Unis natal pour venir vivre en France ?
Oui, ben, j'avais un peu envie de connaître la France parce que j'avais découvert la langue française assez tard. Ma maman était prof de latin, donc j'ai fait un peu de latin au lycée. Enfin, la high school aux États-Unis, c'est ce que ça s'appelle, le lycée. À la high school, j'ai fait un peu de latin. Et puis, à l'université, Eh ben, j'avais suivi un cours de français et puis.
La langue vous a plu ?
Le professeur, oui. En plus, il était drôle, le professeur. C'était un Français qui s'était installé aux États-Unis et il nous faisait rire. Et puis, j'aimais cette langue.
Mais c'est ça qui vous a donné envie de venir en France ou,
oui.
ou c'est autre chose ? Parce que je crois que vous aimiez le théâtre et que vous aviez
voilà,
envie.
Voilà, exact, ouais.
C'est ça, hein ?
Tout à fait. Je me suis dit, j'aimerais approfondir parce que j'avais un amour du théâtre. Qui m'a permis, enfin, j'ai pu, grâce au théâtre dans l'université, j'ai pu jouer plusieurs fois dans des pièces de théâtre. Et c'est incroyable parce que, rendez-vous compte, j'ai même joué dans la pièce d'Anouilh, l'Alouette, qui est sur Jeanne d'Arc, bien sûr. Et puis, j'ai joué l'affreux Charles VII. Mais enfin, la pièce était magnifique. Et puis, et par le cours avec ce monsieur Mayou, que j'aimais beaucoup, et par le théâtre, je suis rentré en contact avec la France. Et puis, une fois que j'avais mon diplôme à 21 ans, je ne savais pas trop quoi faire. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire un voyage en France pour connaître la France.
Alors, j'ai lu quelque part que vous aimiez beaucoup Shakespeare.
Ah oui.
Et que... En fait, c'était une carrière de comédien que vous auriez aimé vivre
oui.
plutôt qu'une carrière de chanteur.
Oui.
C'est vrai, ça ?
Oui, oui, je voulais faire du théâtre. Oui. C'est pour ça que je suis venu. Je ne savais pas exactement. Je ne connaissais pas cette école, mais j'ai découvert l'école un peu grâce au voyage. J'ai pris le Queen Mary pour venir en France et il y avait une dame qui connaissait. J'ai rencontré cette Française qui, heureusement, parlait bien l'anglais. Et moi, je ne parlais pas encore trop. Je lisais et je pouvais écrire le français, mais je ne parlais pas beaucoup le français. Et elle m'a dit, mais vous êtes intéressé par le théâtre, il faut aller chez Jacques Lecoq. Donc, j'ai fait cette découverte dans le Queen Mary. Et quand je suis arrivé en France après, j'ai descendu... au Havre, et puis après j'ai pris le train, et puis donc j'ai découvert à Paris très vite l'école Jacques Lecoq.
Donc là on est en 1965,
voilà.
Vous venez pour faire du théâtre, et puis tout le monde connaît aujourd'hui Steve Waring, chanteur. Alors comment vous êtes passé des planches de théâtre à la chanson ?
Ben, c'était petit à petit, hein, c'était pas tout de suite, mais donc j'ai fait cette école de Jacques Lecoq pendant 2 ans, et pendant ce temps-là, pour payer mes études, bon, j'avais fait une petite économie avant de venir, mais il fallait aussi gagner un peu d'argent. Et j'ai chanté Place de la Contrescarpe à Paris. Il y a un café-théâtre où j'ai chanté pour gagner un peu de sous. J'ai commencé à chanter dans les cafés. D'ailleurs, mon premier gig, c'était je remplaçais Graham Allwright. Qui lui partait en tournée déjà, il commençait à être un peu connu en 65 ou 66. Et moi, j'ai remplacé dans le café-théâtre de Place de la Contrescarpe. Voilà, donc je suis démarré là. Et après, on m'a demandé de faire un disque parce que ça avait plu un producteur qui passait par là.
Et votre premier disque, donc vous l'avez enregistré en 67.
Voilà.
Et c'est dans ce disque-là qu'il y avait les grenouilles.
Voilà.
Et qui a été ce succès.
Mais oui, José ouais. Arthur après le passé sur France Inter. Ouais. Ouais,
et c'est parti.
Thank you. Reportage RCF.
Steve Waring, on vous connaît bien comme chanteur, notamment pour les enfants. Vous êtes un chanteur pour les enfants, certes, mais pas uniquement, aussi pour les adultes. Mais à quel moment vous avez compris que votre voix, V-O-I-E, était celle de chanter pour des enfants? Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, mais finalement, oui, c'est beau de chanter pour les enfants.
Non, 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 je ne me suis jamais dit ça. Parce que j'ai chanté, pour moi, la chanson des grenouilles, d'ailleurs, c'est très bizarre, cette chanson, parce que, d'ailleurs, mais ça arrive souvent avec des chansons traditionnelles, on dit que c'est pour les enfants, mais en fait, si vous ne le chantez pas en soirée, c'est les adultes qui vous le demandent. Donc, est-ce que c'est vraiment pour les enfants? Non, c'est pour tous les âges. Et ça, on paraît prétentieux quand on dit ça. Je voudrais chanter pour tous les âges, donc je ne le dis jamais. Mais en fait, dans la chanson traditionnelle, c'est presque toujours le cas. La chanson traditionnelle, enfin surtout celles qui sont des merveilles, ils ne sont pas peut-être tous des merveilles, mais très souvent dans la chanson traditionnelle, c'est universel, donc pour tous les âges. Et c'est le cas de ces chansons qui sont connues. De moi, les grenouilles, c'est trad, c'est pas de moi. Mm-hmm. J'ai fait une version française.
La baleine bleue, c'est de
moi. Et la baleine bleue, c'est de moi, mais inspiré de. Enfin, je suis ravi parce que parfois les gens croient que c'est trad. Ouais.
Donc, du coup, vous n'aimez pas qu'on vous enferme dans la chanson pour enfants? Vous n'êtes pas un chanteur pour enfants, si. Même si ce sont beaucoup les enfants qui écoutent vos chansons?
Voilà, voilà, je ne me décrirai pas. Non, en fait, quand les gens me demandent, quand les gens ne me connaissent pas, ou si on me demande dans un train ou un bus où je voyage avec quelqu'un qui ne me connaît pas, quel est votre métier? Moi, je dis musicien. Je ne dis pas chanteur, je ne dis pas chanteur pour enfants. De toute façon, de préciser des choses, ça m'ennuie. J'ai l'impression que ça m'enferme. Donc, mais je suis par contre, si les gens me disent vous êtes chanteur pour enfants, ils peuvent le dire, ça, c'est pas une insulte, c'est un compliment.
Il y a votre fille, l'un de vos enfants, vous avez trois enfants, et il y a votre fils qui a dit la force de Steve, c'est qu'il n'essaye pas de faire de la musique pour les enfants, il fait de la musique. C'est bien résumé, c'est bien défini, ça.
Oui, peut-être, ouais. Oui, c'est ça, oui.
Vous n'essayez pas d'écrire pour les enfants, mais vous faites de la musique.
Voilà.
Et qui rejoint les enfants et qui rejoint les adultes.
Oui. Il y a un seul disque que j'avais fait qui s'appelle, à l'époque ça s'appelait Pousse. Maintenant, l'éditeur a changé le titre. Mais oui, j'avais fait un seul disque avec Alain Gibert, où on s'est dit, tiens, on va viser les petits. Mais c'est la seule fois.
Alors Steve Waring, j'aimerais qu'on parle de la musique pour les enfants. Justement, vous avez toujours donné une grande place à la musique dans votre propre famille d'abord. Je disais, oui. vous avez trois enfants, Alice, Thomas et Arthur.
Oui.
Tout de suite, vous les avez initiés à la musique? C'était important pour vous et pour eux?
Oui, mais j'ai eu la chance d'épouser aussi une maîtresse d'école qui faisait la musique avec, qui faisait chanter ses élèves, toujours.
Marie-Ange,
elle vient d'une famille d'ailleurs où la musique était bien présente. Et puis, pas du tout comme moi, c'était le métier de mon papa. Mm-hmm. Mais Marie-Ange, la musique était quand même présente dans sa famille, on chantait. Et pour moi, ça c'est le plus important.
Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants d'apprendre un instrument dans la famille, de jouer dans la famille?
Ben, apprendre un instrument, c'est pas obligé. Hein. On avait donner la possibilité à Thomas de faire du piano très vite. Quand son grand-père, musicien professionnel, venait à la maison ici, mes parents venaient parfois, et ben, il faisait faire de la musique à son petit-fils. Donc ça, c'était spontané. Puis on avait été ravis de leur offrir à Thomas et puis ensuite Alice, qui a 3 ans de moins, la fille, eh ben, tous les deux, on les a fait faire de la musique à Villeurbanne, dans une très très bonne école.
Mais qu'est-ce que ça apporte aux enfants de jouer de la musique? Je vous pose cette question parce qu'on est dans un pays, en France, où l'enseignement à l'école en musique n'est pas très bon. Enfin, je suis désolé pour les profs de musique qui nous entendent.
Non, mais c'est en train de changer, je crois.
On n'enseigne pas beaucoup. Et selon vous, qu'est-ce que ça apporte aux enfants de jouer de la musique, d'apprendre un instrument?
Mais c'est facile pour moi d'en parler parce que notre troisième enfant, et handicapé. Donc il est, Arthur est atteint de trisomie 21. Et il, lui aussi, on lui a fait faire de la musique, mais surtout par le chant. Et puis on nous avait dit, ah, mais on avait entendu dire que les enfants comme Arthur, atteint de trisomie, ne chantent faux. Eh bien, c'est faux. Il suffit de les faire chanter, et en chantant, on apprend à chanter juste. Mais c'est évidemment, si on ne chante pas, si on ne montre pas à son enfant qu'on a envie de chanter, et puis que lui, peut-être, pourrait chanter aussi, eh ben, il ne chantera jamais. Mais voilà, il faut chanter soi-même, et puis passer le chant à son enfant. Ça, c'est le plus important, parce que c'est le premier instrument. La voix, c'est le premier instrument. Il faut d'abord, tous nos enfants, on les a fait chanter. Et après, le hasard a fait que Thomas a fait du piano. Et Alice a choisi, je ne sais pas si elle a fait du piano, peut-être un tout petit peu de piano, mais très vite, elle a voulu faire de la clarinette, quoi. Elle a pris sa décision après.
Alors Steve Waring, vos enfants, vous les avez fait monter très tôt sur scène. Vous, votre vie de chanteur, vous menez sur scène régulièrement, mais vous avez fait monter vos enfants aussi. Pourquoi ça? Pourquoi ce choix? Les faire monter très tôt, et les trois.
Eh ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurai une réponse facile. J'avais l'impression que je ne sais pas si c'était vraiment égoïste ou c'était vraiment pédagogique. J'aimais bien être accompagné, donc on a fait des tournées parfois où Thomas m'accompagnait au piano et Alice aussi. Et très vite, même à 5 ans, rendez-vous compte, à 5 ans, je passais quand Arthur avait 5 ans, moi je suis passé à l'Olympia. Et il y avait une petite chanson que j'avais fait pour lui et je me suis dit, mais pourquoi il ne ferait pas avec moi
Il est monté sur scène à l'Olympia. Arthur, trisomique, à 5 ans, ouais. Monte sur scène à l'Olympia. Ouais. Il chante avec son père. Qu'est-ce qu'il a fait,
ouais,
Arthur,
il a fait un petit sirène. J'ai fait une chanson qui s'appelle Le cigare. Ton cigare est interdit ici. Il soufflait dans le cigare. Là.
Cigare, c'était quoi? Un instrument de musique?
Sirène.
Une petite sirène.
Petite sirène, voilà. Et puis, et il avait même des petits mots à dire dans le refrain aussi. Donc, il jouait et il chantait quelques petits mots dans cette chanson.
Mais Steve Waring, on a dû vous dire que c'était un peu fou comme projet de faire monter son enfant trisomique sur scène à l'Olympia. Comment vous avez réagi quand les gens vous ont dit ça? Vous ont dit non, mais tu vas pas le faire monter, tu vas pas le montrer là.
Non, mais écoute, je sais pas si on osait me le dire après peut-être, mais je reviens pas. Mais ça s'est tellement bien passé que il y a peu de gens qui m'ont parlé de la folie.
J'ai beaucoup aimé cette expression, j'ai lu, vous parliez d'Arthur, et vous disiez « Arthur a été piqué par le moustique trisomique, mais aussi par le papillon de la musique ». C'est beau, cette expression. Il continue, Arthur, à jouer de la musique? Il joue quel instrument?
Il a 31 ans maintenant, et il continue la trompette. Il a encore des cours toutes les semaines de trompette dans son foyer à Lyon.
Il est à l'Arche de Jean Vanier?
De Jean Vanier, oui, à Lyon. Depuis 12 ans.
D'accord. Il joue de la musique.
Oui, il fait de la musique. Et parfois, on lui fait faire, parce qu'il a tellement souvent joué avec son père. Maintenant, il a dit, non, je ne joue pas avec, toi. Il veut faire, il joue deux instruments essentiellement, mais enfin, bon, il prend le bâton de pluie, il prend un petit peu de balafon, il joue ukulélé, un seul accord. Mais c'est génial, il fait plein de chansons avec un seul accord du ukulélé. Et ukulélé, c'est son instrument pour les chansons. Et puis, quand il fait des petits concerts tout seul, il joue aussi pas mal de thèmes à la trompette.
Visage, Thierry Lyonnais.
Steve Waring, est-ce que c'est le fait d'avoir eu Arthur, un enfant trisomique, dans votre famille, qui vous a conduit à vous engager au sein de l'organisme Musique et Santé ? Qui diffuse la musique à la fois dans le milieu hospitalier, mais aussi auprès de personnes porteuses de handicap.
Ça c'était.
Vous alliez déjà avant d'avoir Arthur dans les hôpitaux.
J'arrive pas à me rappeler, mais c'était proche peut-être. Oui, peut-être qu'on a eu Arthur. Et puis j'ai rencontré donc le fondateur de Musique et Santé, ou peut-être déjà. Ah, attends, non, je connaissais. Non, il n'avait pas encore fondé. je crois, Philippe Bouteloup de Musique et Santé, il ne l'avait pas encore fondé. Donc, ça doit être pas consciemment, mais inconsciemment lié au fait que j'étais ravi de soutenir, je suis le parrain de cette association Musique et Santé, qui travaille dans les hôpitaux.
Mais ce n'est pas le fait d'avoir dans votre famille un enfant porteur de handicap qui vous a fait vous engager comme
ça. Pas intellectuellement, mais probablement c'est lié, c'est sûr. On est plus sensible à toute action en direction de ces personnes différentes qui sont parfois moins handicapées que nous pour certaines choses. C'est ça qui est vraiment passionnant avec Arthur. Il nous a ouvert à une autre façon de sentir et de penser parce que lui, il a moins de facilité avec les paroles.
Vous pouvez essayer de m'expliquer ce que Arthur a apporté à votre famille ?
Ah, ben ça !
Et à vous-même, chanteur ?
Oui, ben écoute, Arthur, donc quand il est arrivé, on ne savait pas du tout, ce qui nous arrivait, cette différence, on ne connaissait pas, donc on a lu beaucoup, et puis on a eu des réactions des gens. Pierre Andrès, notre ami sculpteur, nous a dit « c'est un appel à l'amour ». Il n'a pas réfléchi, ça lui est venu comme ça au téléphone quand lui a annoncé l'arrivée d'Arthur. Il a dit « ah, c'est un appel à l'amour ». Eh bien, je crois qu'il avait raison. Tout à l'heure, je disais, je crois qu'il nous a ouverts. Et ça, c'est tout à fait ça. On s'ouvre parce que Arthur, il est proche parfois, plus proche des choses importantes que parfois on ne sent pas. On est proche avec les paroles aux autres. Et Arthur, il nous apprend à sentir les vibrations. C'est incroyable parce qu'un jour, on était chez mon beau-frère et belle-sœur venaient d'acheter une maison dans le Bugey. Et puis on est allé là-bas, et incroyable, Arthur, il ne connaît pas du tout, c'est la première fois qu'il était là-bas, il est allé se jeter dans les bras d'un monsieur, l'embrasser, qu'il ne connaissait pas. Et on a su, après, il nous a dit qu'il avait une ouverture pour ces personnes différentes, parce qu'il avait un cousin qui était comme Arthur. Mm-hmm. Mais Arthur a senti ça.
Il l'a senti. Mais là, Steve Waring, c'est quand même intéressant parce que vous êtes parolier, vous êtes chanteur, musicien, mais aussi parolier. Ouais. La parole compte beaucoup et vous avez un enfant qui ne s'exprime pas par la parole ou difficilement par la parole.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a pas été difficile, ça, pour vous ?
Ah. Ah, mais non, parce que... Et c'est Arthur qui m'a appris ça. La musique est un langage aussi. Qu'est-ce que c'est la musique ? C'est difficile de dire, c'est un merveilleux enchaînement de rythmes et de mélodies, mais on ne le pense pas forcément comme un langage, alors qu'Arthur nous a appris ça. Mm-hmm. Arthur était un langage. Parce qu'on chantait avec lui, et lui, il est très musicien, il joue, il fait de la musique, il chante avec nous, et il est très sensible, très très sensible à la musique. Il peut rester vraiment... planté pour écouter des musiques parfois que d'autres trouvent difficiles. Non, non, il reste silencieux et il écoute avec tout son être.
Steve Waring, vous dites la musique est un langage. Vous avez même déclaré la musique est un langage encore plus universel que l'espéranto.
Oui, voilà.
C'est vraiment un langage universel vous l'avez vraiment expérimenté dans
votre
vie.
Oui, parce que je suis allé souvent dans des lieux où il y a des handicapés qui sont très loin de la parole, de la langue parlée. Et j'ai pu avoir des contacts en faisant quand même chanter des gens qui étaient très loin de la parole. Et ça, j'ai pas seulement avec Arthur que j'ai découvert ça, j'ai souvent chanté... dans les hôpitaux, aussi carrément un bébé. Un jour, j'ai chanté pour un bébé qui était prématuré. Et puis, je ne savais pas trop pourquoi j'étais là, mais les médecins ont dit, si, on voit d'après la sonde que le bébé vous écoute. Vous vous rendez compte ? ça m'a rassuré. Donc j'ai chanté devant cette prématurée qui était dans une machine. Il m'entendait même pas directement, mais le médecin m'a rassuré en disant « Ah oui, il vous écoute
». Vous avez même chanté Steve Waring une fois devant un enfant dans le coma.
Ouais.
J'aimerais que vous nous racontiez ça, ce qui s'était passé. Je crois que ça a été à l'origine d'une belle chanson. Hein.
Oui, j'ai fait une chanson pour Rodolphe. Que j'étais dans la région parisienne, à Garches. Il y a un hôpital et un grand hôpital pour les enfants et puis pour les adultes aussi, qui sont parfois dans le coma suite à des accidents ou suite à une maladie. Et alors, Rodolphe, je ne sais pas si c'est... Oui, c'était peut-être un accident, je ne sais pas, de la route. Et donc, j'ai chanté pour lui.
Et donc, il était dans le coma, complètement.
Oui, lui, il était complètement dans le coma. Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais voilà. Ça m'a donné envie de faire une chanson. Après, j'ai fait une chanson...
Qui s'appelle « Berceuse pour un enfant qui dort ».
Oui, oui.
Le soleil t'a posé un lapin, il est passé où ce coquin? Tu n'aimes pas rester dans le noir, ne t'inquiète pas car lorsque les enfants s'endorment, les étoiles s'éveillent et les anges légers, légers descendant des étoiles lointaines, reste pendant la longue nuit près des enfants endormis. La lune a pris la clé des champs, elle exagère vraiment. Si t'as du chagrin, rappelle-toi ce refrain. Lorsque les enfants s'endorment, les étoiles s'éveillent et les anges légers, légers descendant des étoiles lointaines restent pendant la longue nuit et des enfants endormis.
Mais qu'est-ce que ça vous a fait découvrir ce moment-là, vous, chanteur, qui d'habitude est tourné vers le public, en relation avec votre public, enfant ou adulte, vous êtes là dans cette chambre d'hôpital devant un enfant qui est dans le coma et vous chantez pour lui. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là?
Ah ben ça, de toute façon, nous on a l'habitude de faire le silence. Tous les matins, une heure, on fait le silence dans la cave ici.
C'est-à-dire vous, un temps de méditation, voilà. De prière.
Voilà, un silence. Temps de méditation et prière, on le fait ça depuis au moins 20 ans, peut-être même 30 ans, je n'ai pas compté. Donc, dans ces moments, ça nous permet, dans des moments que j'ai vécu avec cet enfant silencieux, de prier avec lui, d'être proche de lui d'une autre façon, parce que ça, c'est vrai, la musique est sonore et pas du tout silencieuse, mais parfois ça aide, ça nous aide nous ou ça aide les personnes qui sont là.
C'est intéressant, le chanteur que vous êtes a besoin du silence.
Ah ben oui. C'est pour ça que je suis ici, vous avez vu, on n'a pas encore été dérangé par,
c'est calme,
par le moindre bruit.
C'est calme là, c'est, oui, sûr, oui. C'est sûr. Non mais, vous avez ce temps de silence, de méditation tous les jours.
Oui.
Et vous en avez besoin dans votre vie de chanteur.
Oui, 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 bien sûr. Ça c'est...
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ça c'est essentiel. Parce que, oui, ça m'apporte... un contact avec l'essentiel, c'est tellement mystérieux, cette vie. Donc le mystère, on en parle assez rarement, mais si on n'est pas proche du mystère, on ne peut pas vraiment s'adresser à des choses qui sont importantes. On ne peut pas en parler ou sans parler, jouer de la musique et dans certaines situations. Il faut être proche du calme et de l'essentiel.
Steve Waring, depuis un instant, vous utilisez le mot mystère, vous utilisez le mot essentiel. Vous n'avez pas prononcé le mot de Dieu.
Ah, mais Dieu, c'est... Moi, je préfère parler de... Je respecte ce mot, mais je préfère... Pour moi, c'est la vérité invisible, c'est l'intelligence cachée. Ça, c'est un moine de Rishikesh en Inde qui parlait de Dieu comme étant l'intelligence cachée. J'aime bien cette phrase. C'est pour ça que je n'évoque pas beaucoup... pour moi ou pour les autres, le mot Dieu. Mais ça ne me fait pas peur, mais je préfère trouver un autre terme en général.
Steve Waring, un homme qui aimait beaucoup Dieu, qui lui utilisait ce mot, voire même le mot de Jésus, c'est Jean Vanier.
Ah.
Votre fils Arthur donc, est à l'arche de Jean Vanier, vous le dire. Ouais. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Jean Vanier et de discuter avec lui?
Oui, pendant quelques instants, on a surtout écouté parler au cathédrale Saint-Jean quand il est venu, ça c'était magnifique. Et puis après, il est parlé à l'arche pour les 20 ans de l'arche à Lyon. Il a été présent et on a pu s'approcher de lui à ce moment-là. Et puis j'ai lu des livres de Jean Vanier, mon épouse aussi. On est très, très inspirés par sa façon d'écrire. Et puis ça, évidemment, sa vie est passionnante.
Et il était comme vous, un étranger?
Oui.
Parce que, j'utilise ce mot encore pour vous. Vous êtes en France depuis 1965, mais vous êtes toujours un étranger ici en France.
C'est une bonne question. Est-ce que dans la tête, je suis étranger? Ah oui, peut-être. Oui, je ne suis pas d'ici, mais je me sens bien ici. Alors,
Vous êtes marié à une Française, vos enfants sont français.
J'ai un passeport français même.
Un passeport français. Mais par exemple, la langue, vous utilisez une langue que vous maîtrisez très bien, le français, mais ce n'est pas votre langue maternelle.
Non, c'est vrai. Alors oui, je suis étranger toujours, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant la question parce que ça nous ramène à qu'est-ce que c'est être ici. Est-ce qu'on est vraiment dans un pays ici? Non, on est dans un globe. Mais moi, j'ai même fait une chanson où j'ai dit... ni la France, ni les États-Unis sont mon pays. Mon pays, c'est le monde. Et j'appelle ça, la chanson s'appelle le rond pays. The round country.
Vous le sentez vraiment? Vous appartenez à la planète Terre? Mais ça veut dire quoi? Qu'on est tous frères, quelque part?
Tout à fait.
Et que ces frontières sont artificielles?
Oui, bien sûr. Mais ça, on n'ose pas en parler. Hein. C'est un ressenti, c'est une façon de voir. Une façon de voir, mais on n'en parle pas.
Steve Waring, cette planète sur laquelle nous sommes, cette petite planète bleue, elle est fragile.
Oui.
Vous avez été très sensible, très tôt, à l'écologie. Hein. Votre chanson « La baleine bleue » disait déjà, attention, dans l'eau, il n'y a plus d'eau, quoi, quelque part, il y a trop de pollution. C'est en quelle année vous avez écrit La baleine bleue
hein? Ben, 72, oui, je l'ai enregistré en 72. Ouais, ouais. Ouais.
Et ça, cette sensibilité à l'écologie, elle vous est venue comment, si tôt?
Je crois que tout le monde qui vibre, qui est sensible à la nature, ça c'est un mystère aussi, il y a tellement de beauté pour les yeux, pour les oreilles, pour le nez aussi. Comment ne pas avoir envie de conserver ces belles choses qui nous entourent et parfois qui nous permet aussi, bien sûr, de nous nourrir, de rester en vie. Si la pollution s'emballe, c'est la planète, mais avant que ça soit toute la planète, c'est des légumes, c'est des fruits qui vont être pollués, on ne va pas pouvoir se nourrir, c'est à la fois respectueux et à la fois c'est même égoïste. Parce qu'on ne peut pas rester dans un monde qui est totalement pollué, dégradé, on ne peut pas se nourrir, donc on va pas pouvoir vivre, on va mourir.
Mais on n'est pas désespéré quelque part. En 72, vous chantiez déjà « Attention à la pollution, il faut protéger nos océans ». Aujourd'hui, quand on nous décrit les océans, c'est assez dramatique,
ouais.
La pollution plastique notamment.
Ouais.
Vous n'avez pas le sentiment que c'est désespérant et que ça ne sert à rien ?
Face à certaines structures ou certaines grandes multinationales, peut-être qu'on peut avoir cette... Mais il faut rester quand même... je pense qu'il faut rester... conscient de... Bon, on se moque même de cette autiste Greta Thunberg qui milite pour la planète. Il y a quand même... C'est très positif. Moi, je ne m'en moque pas. Il y a beaucoup de gens qui la prennent au sérieux, d'ailleurs. Elle est même passée en France devant les parlementaires, je crois. Donc, il y a un éveil. La France a été très en retard. J'étais désolé. Ce pays que j'aime beaucoup m'a déçu dans pendant des années. En 72, la France, quand j'ai fait la baleine bleue, la France était vraiment loin de s'intéresser à l'écologie. Mais maintenant, ça a changé.
Vous parlez de la France, mais et votre pays d'origine, les États-Unis ?
Oui, c'est pire.
Président actuel,
c'était
vous trouvez
pire, c'était pire à cette époque-là. Et puis, ça commençait à changer avec Obama, ça a changé un tout petit peu. Et puis maintenant, avec Trump, c'est terrible, ouais. Il a carrément nié
les accords de la COP 21.
Ouais, COP 21, ouais.
On parle de pollution, on parle forcément d'avenir. Vous avez un petit-fils,
oui.
Timoléon,
oui.
À qui vous avez dédié l'un de vos disques. Qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre d'essentiel à votre petit-fils ?
Ah.
Pour terminer cette émission, allez, qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre ?
Ah. L'envie de calme. Il y a tout plein de courants maintenant pour les enfants qui les excitent, qui les met parfois dans la course quand c'est pas essentiel, mais aussi parfois dans le bruit. Et donc, j'aurais envie de lui transmettre un peu de calme. Donc, c'est pour ça que je recherche le calme tous les matins.
Et vous aimeriez qu'il fasse de même ?
Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, on l'a amené, on a fait une retraite spirituelle avec mon petit-fils et ma petite-fille. Parce qu'on n'en a jamais parlé encore pendant cette réunion, mais on était très... très inspiré par l'Inde. Marie-Ange et moi, on est allés en Inde en 1977 et on a un peu eu envie de méditer comme dans notre vie de tous les jours parce qu'on a appris, on a rencontré un swami qui nous a fait méditer en Inde. Un swami de cet ashram ou cet monastère en Inde est venu faire une retraite en Normandie et puis on a amené nos petits-enfants notre fille et ses deux enfants à cette retraite spirituelle.
Pour qu'ils découvrent le silence,
voilà.
Et la paix intérieure. C'est
voilà.
Ce que vous leur souhaitez de,
oui.
De plus fort. Mais écoutez, merci beaucoup Steve Waring de nous avoir accueillis chez vous. On va peut-être terminer par un peu de banjo puisque c'est un instrument qui sourit. vous me souriez joliment en cette fin d'émission. Et bien, on va peut-être terminer avec le sourire du banjo si vous voulez bien. Merci beaucoup Steve Waring.
Avec plaisir.
Une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.
Le téléphone du dimanche, c'est quatre possibilités de s'adresser à un proche détenu en Midi-Pyrénées. en direct par téléphone au 05 62 48 63 00 chaque dimanche de 19h à 20h. En différé en laissant un message sur notre serveur vocal au 0892 46 00 12, par mail téléphonedudimanche@radioprésence.com ou par courrier 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse.
Présence, la radio pour servir. 5 radios, un seul nom. Présence, la radio chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin.
Flashback.
Flashback.
Flashback, une chronique musicale de Michel Brun.
Bach a fait de la tôle. Oui, vous avez bien entendu, le grand Jean-Sébastien Bach a été jeté en prison. Et pour quel épouvantable crime ? Vol, meurtre ou pire encore ? Pour replacer cette sanction dans son contexte, il nous faut comprendre ce qu'était la place d'un musicien à cette époque en Allemagne. Il pouvait occuper différents postes, musicien municipal, organiste de la ville, concertmeister, cantor et le couronnement, Kapellmeister. Bach les a d'ailleurs tous occupés, successivement ou en même temps. Mais dans ces places, aussi prestigieuses soient-elles, on est toujours un employé, c'est-à-dire chargé de remplir des obligations précises, définies par un contrat. Et la vie entière de Bach sera l'histoire d'une lutte avec ses supérieurs pour réussir à se faire reconnaître. Nous ne sommes pas encore à l'époque de Beethoven, premier des romantiques, qui revendiquera la place singulière de l'artiste. Rappelons-nous cette phrase qu'il jeta à la figure du prince Lichnowsky. « Ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Il y a eu et il y aura encore des milliers de princes. Il n'y a qu'un seul Beethoven. » Pom-pom-pom. À 18 ans, dès son premier poste à Arnstadt, les ennuis de Bach commencent. Il est réprimandé pour avoir frappé un bassoniste du plat de son épée. Et oui, il portait une épée, celle d'un laquais. Il faut dire qu'il avait un caractère, comment dire, entier. Le bassoniste en question l'avait injurié, après que Bach lui ait dit qu'il jouait avec un son de chèvre. Est-ce par vengeance qu'il confiera au basson cette partie difficile ? Sa brouille avec les autorités municipales à la suite de son voyage à Lübeck pour rendre visite au plus grand musicien de son temps, Buxtehude. 400 km à pied, s'il vous plaît. Là aussi, Bach n'est pas exempt de responsabilité. Ayant obtenu un congé d'un mois, il revient au bout de 4 sans avoir donné aucune nouvelle. Il prend ensuite un poste à Mühlhausen et dès le début négocie au pied à pied. Il obtient, en plus d'une augmentation de salaire, 3 mesures de grains, 2 piles de bois ainsi que 360 fagots. Toutefois, rapidement, Bach se brouille avec un de ses supérieurs et quitte ce poste pour Weimar. Est-ce qu'il y trouve un meilleur accueil ? Loin de là, puisque c'est ici qu'il est condamné à un mois de prison pour avoir, tenez-vous bien, simplement demandé, bon, d'accord, de manière insistante, à partir à Köthen qui lui offrait enfin un poste de Kapellmeister. Et son dernier poste, celui de cantor à Leipzig, apparemment si honorifique. C'est là qu'il produira ses passions et cette incroyable floraison de cantates. Pourtant, ce poste sera, comme les précédents, truffé d'incidents avec ses supérieurs. Témoin, les remarques faites par ceux-ci, se plaignant que sa musique, par ses modulations trop audacieuses, avait pour effet de, je cite, « troubler les croyants ». Il faut dire que cela avait mal commencé, car les membres du conseil avaient au départ choisi Telemann, qui finalement se dédie. Voici l'avis des édiles. N'ayant pu avoir le meilleur, nous nous contenterons de Monsieur Bach. Alors un conseil, si une place de cantor se libère dans votre entourage, ne postulez pas.
Radio Présence.
Dans le Lauragais, 97.9.
Cet enfant Jean qu'on devient forgeron. C'est en maçon que l'on devient maçon, en polissant qu'on devient polisson. Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, c'est en bûchant que l'on devient bûcheron, en relatant qu'on devient relation. C'est à 100 ans qu'on devient moribond. Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, les gens disent toujours que l'on n'a rien sans rien.
Ça il faut bien dire, on n'a rien sans rien.
Qu'il faut beaucoup semer pour un peu récolter. J'ai rien dans les poches, moi j'ai rien dans les mains.
Ah si, moi j'ai dans les mains.
Mais comment voulez-vous que je gagne des sous?
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
C'est en cornant qu'on devient cornichon. En se perchant qu'on devient percheron. Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous,
bûchant qu'on devient bûcheron. C'est en rêvant qu'on devient réveillon. En se mouchant que l'on devient moucheron.
Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous.
Prodigues en paroles, tous les gens m'ont dit qu'il faut le pratiquer.
En effet, pour savoir son métier.
Pour savoir son métier. Moi j'ai pas fait d'école, moi je n'ai rien appris. Et comment voulez-vous que je gagne des sous?
Des collants,
mais pour gagner des sous,
mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous,
c'est en pêchant qu'on devient bûcheron,
c'est en aidant qu'on devient
aidant, très joli,
en guérissant qu'on devient guéridon,
c'est pas mieux.
Mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, mais pour gagner des sous, bon sang, comment fait-on?
Radio Présence à Cahors 92.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Conséquence de la crise économique renforcée par la pandémie au Liban, les écoles créent